tradition sans traditionnalisme avec un point d'interrogation. C'est le thème du débat aujourd'hui, à lundi.
Les vendredis de la philosophie. Aujourd'hui, philosophie en situation, présentée par François Nouvelleman. Notre sujet, tradition sans traditionnalisme. Le diagnostic d'une crise de la transmission nous dispense souvent de définir exactement ce qui est transmis. Aveuglés par l'opposition usagée entre tradition et modernité, nous oublions ce que la tradition peut avoir de dynamique et combien elle suppose de liberté, de la liberté, de l'invention, de la réappropriation. Son invocation en symbole d'un passé perdu, celui de l'autorité, des pères, de la loi, la fige dans le traditionnalisme. Mais sans la fiction d'une origine dégradée, la tradition peut à l'inverse être comprise comme un processus qui met en jeu des allers-retours entre les générations. Comment s'exerce ce mouvement aujourd'hui, alors que les liens intergénérationnels ont changé ? Quels sont les acteurs de la transmission des savoirs, de la mémoire, de la culture ? Face à de telles mutations, la philosophie peut choisir le ton apocalyptique ou préférer l'analyse lucide du sens et des conditions du passage. Trois philosophes aujourd'hui sont ici pour discuter justement de cette notion de tradition. Dany Robert Dufour, qui est professeur à l'Université de Paris 8, Marcel Gaucher, qui est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et rédacteur en chef de la revue Le Débat, et Philippe Simet, chercheur associé au laboratoire d'anthropologie sociale du CNRS. Alors, Dany Robert Dufour, j'aimerais que, d'abord, justement, du point de vue philosophique, on dise ce que c'est peut-être que la tradition, parce qu'on parle beaucoup, c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans des médias, de parler d'une crise de la transmission, des valeurs, mais en quoi la tradition peut apparaître comme un problème conceptuel pour un philosophe, Dany Robert Dufour?
Pour ouvrir cette discussion sur la question de la tradition et sur la question de la transmission, il faut partir d'une donnée qui est une donnée anthropologique, ça tombe bien puisqu'on a un anthropologue ici, on va peut-être pouvoir en discuter. Il faut faire un détour qui est toujours, je crois, utile quand on philosophe. Cette donnée de nature serait la suivante, c'est une donnée de nature un peu étrange, puisque en fait c'est une donnée de manque de nature chez l'homme. Elle pourrait s'énoncer ainsi, l'homme à sa naissance ne vient pas au monde complet, accompli, achevé. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la néothénie de l'homme, mais c'est une vieille question qui a toujours beaucoup préoccupé la philosophie.
Néothénie, vous pouvez préciser ?
Oui, néothénie, c'est l'état de la prématuration, l'état de celui qui vient, comme l'homme, prématuré au monde, et qui doit donc s'achever hors de la nature, puisque la nature ne le donne pas complet, et en fait, pour l'humanité, c'est le passage évidemment décisif par la question de la culture. D'où se pose là, véritablement, la question de la transmission. Je crois que Kant avait parfaitement formulé ce problème, et si vous me permettez cette petite citation rapide qui est tirée de son traité de pédagogie ou des réflexions sur l'éducation, il disait ceci, que vous connaissez très probablement. « Par son instinct, un animal est déjà tout ce qu'il peut être. Une raison étrangère a déjà pris soin de tout pour lui. Mais l'homme doit user de sa propre raison, il n'a point d'instinct et doit se fixer lui-même son plan de conduite. » Or, puisqu'il n'en est pas immédiatement capable, il faut que d'autres le fassent pour lui. Donc la transmission serait rendue nécessaire par le fait que l'homme étant inachevé à la naissance, il doit se compléter et par le truchement donc d'autres, par le concours, en mettant à profit le concours d'autres. Donc ça veut dire qu'on doit lui transmettre de l'extérieur quelque chose qu'il n'a pas à l'intérieur. D'où cet positionnement de la question de la transmission par rapport à cette donnée qui me semble fondamentale. Ceci étant posé, je crois que je pourrais dire que l'histoire a expérimenté deux façons de suppléer à ce manque natif de l'homme. Et là, on en vient véritablement aux questions de la transmission. Soit, donc, on ajoute à l'homme quelque chose qui est déjà présent dans les sociétés humaines, quelque chose donc qui résulterait d'une sagesse accumulée par les générations précédentes, ou d'une supposée sagesse accumulée par les générations précédentes. Et dans ce cas, évidemment, ce sont les traditions qui sont venues du passé qui, ajoutées à cette nature défaillante de l'homme, amèneraient donc celui-ci à pouvoir tenir sa place dans le monde. Soit on ajoute quelque chose d'autre, c'est-à-dire on ajoute quelque chose qui n'existe pas encore, un bout, pourrait-on dire, à construire en cours de route, non pas donc en fonction de dogmes préexistants, mais en fonction d'un savoir à produire. C'était donc là, vous savez bien sûr, l'optique de Kant et l'optique des Lumières, lorsque Kant, par exemple, explique que l'homme doit se parfaire dans une activité critique, en devenir, qui se développe nécessairement dans la contradiction et le conflit, et comme une finalité qui n'est jamais totalement achevée. Là, on est dans une subversion de la tradition, puisque la génération à venir, bien sûr, doit prendre appui sur la génération précédente, mais pour subvertir ce que la génération précédente lui a donné.
Philippe Simet, bon, vous travaillez aussi sur la tradition comme problème conceptuel, c'est même l'objet d'un séminaire que vous tenez au Collège international de philosophie. Est-ce que vous suivez, vous, cette opposition qu'on connaît bien aussi, qui est celle des Lumières aussi, et cette distinction entre donc, nature et culture ça... Alors, est-ce que vous l'abordez de cette façon-là? Est-ce que, justement, l'anthropologie ne vous amène pas à le penser différemment?
Ouais, il y a un certain nombre d'éléments que je reprendrai volontiers. Hein. Ce qui me semble caractéristique quand on essaye de penser le problème de la transmission et de la crise de la transmission, qui est non pas l'absence de transmission, ni l'absence de volonté de transmettre, mais l'incapacité à rendre nos expériences transmissibles. Ce qui n'est pas la même chose, car la volonté de transmettre, elle est là. Ce qui me semble intéressant, c'est que on la fonde toujours, cette crise de la transmission, sur une pré-compréhension de la notion de tradition, et que si on regarde historiquement ce qui a été dit sur la tradition, on s'aperçoit que on en a fait principalement un usage signalétique en l'opposant à une autre notion, tradition raison, tradition modernité, société traditionnelle, société moderne, toujours au profit de la seconde notion. On explique la modernité en se référant aux sociétés traditionnelles. Ce qui est intéressant dans le détour anthropologique, c'est que depuis deux générations, les anthropologues se sont employés à démonter cette notion de tradition et la notion de société traditionnelle pour montrer que finalement l'objet tradition était problématique, qu'il était en permanente recomposition et donc à mettre en doute son existence factuelle. Alors ça c'est intéressant pour un philosophe parce que si on regarde ce qui a été dit en gros philosophiquement sur la tradition, il y a eu à mon avis deux grandes périodes. Une première où on a penser la tradition du point de vue de l'héritage, c'est une portion d'héritage maintenue en l'état, se transmettant de génération de main en main. Et puis, à partir des années 20, un certain nombre de philosophes ont essayé de penser la tradition au présent, c'est-à-dire du point de vue de l'héritier. C'est l'héritier qui va redéfinir au présent sa tradition, oui, alors, donc introduire une part de nouveauté aussi.
Qui alors, Benjamin, par
alors,
exemple
Benjamin, mais avant lui, Husserl. Oui. On retrouve aussi, bien sûr, Heidegger, Gadamer. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que toute une génération de penseurs qui ont thématisé la rupture de la tradition sont en fait ceux qui réhabilitent l'idée de tradition en philosophie. Oui. Et le fait de la penser au présent, ça leur permet de questionner la tradition dans le geste même de son éloignement, c'est-à-dire de reprendre la tradition tout en conservant une certaine idée des Lumières. On n'est plus dans l'héritage qu'on maintient de génération en génération et que les Lumières assimilaient du préjugé. On est dans un travail de recomposition et de réappropriation au présent, donc d'une évaluation critique. Alors bien sûr, il y aurait des distinctions à faire, par exemple entre Arendt, Benjamin, Husserl, Gadamer, qui n'ont pas la même évaluation, qui ne font pas la même évaluation du passé. C'est intéressant de voir que, à partir des années 20, en anticipant ce que font les anthropologues dans les années 60-70, il y a cette volonté de penser la tradition au présent, qui pose aussi certains problèmes sur lesquels on va revenir certainement.
Marcel Gauchet, on connaît votre immense travail sur la place de la religion, sur le désenchantement du monde. Bon, ça fait partie aussi de cette question de la transmission, hein, de la, de réaménagement aussi du religieux dans une société démocratique. Alors, est-ce que vous aussi vous réévaluez cette crise de la transmission ou cette crise du symbolique aujourd'hui à la lumière d'une réflexion conceptuelle sur la tradition?
Oui, je crois que cette notion de tradition nous est indispensable pour penser l'existence dans le temps et penser l'existence dans l'histoire des sociétés et notre action dans le temps et dans l'histoire. Et par rapport à la périodisation que dessinait Philippe Simet, je dirais que nous sommes aujourd'hui, me semble-t-il, dans une configuration assez nouvelle du problème de la tradition, même si beaucoup des choses que nous pouvons penser ont à s'étayer sur cette tradition de réflexion sur la tradition, si j'ose dire. Parce que je crois que nous sommes dans un moment qu'on a pu qualifier d'accélération de l'histoire. L'image parle, même si on peut beaucoup discuter cette notion. En tout cas, ce qui est sûr, je dirais, si nous voulions aller au fond de notre problème du moment, c'est que nous sommes quelque chose que nous percevons, en tout cas, comme un achèvement de ce qu'on pourrait appeler la transition d'une légitimation par le passé, c'est-à-dire par la tradition, dont la religion a été la forme par excellence historiquement, tout ce qui est important et normatif pour notre monde nous vient du passé. C'est ça la tradition dans son concept d'origine le plus puissant, c'est un rapport au passé qui légitime le présent en fonction du passé. Nous sommes actuellement dans un parachèvement de la nouveauté de la modernité qui est la légitimation par l'avenir. Et ce qui est de droit, ce sont nos efforts pour construire par un projet le futur qui nous ressemble, au fond, et qui implique donc de rompre avec la tradition, qui implique de rompre avec le passé. Alors, je crois que nous connaissons une très grande accentuation de cette orientation de la légitimation par l'avenir qui casse effectivement les ponts dont nous avions l'impression, sans trop nous en rendre compte, qu'ils nous reliaient d'une manière ou d'une autre à un héritage du passé, à quelque chose comme une tradition. Et paradoxalement, cette situation qui dévalue d'une certaine manière ce qui était spontanément tenu pour tradition nous oblige à réinventer la notion de tradition et à lui donner un véritable statut conceptuel qui ne soit pas justement ces repoussoirs faciles qu'évoquait Philippe Simet. La tradition, c'est tout simplement ce dont nous avons à apprendre à nous passer. C'est beaucoup plus complexe que ça, et je crois que nous sommes dans le moment où, paradoxalement, sous l'effet de l'accélération de l'histoire, nous sommes en position de vraiment penser, nous avons le devoir de penser la tradition, de lui donner son statut dans, me semble-t-il, deux directions, pour simplifier un problème complexe. La première direction, c'est que nous apercevons que la tradition, elle n'est pas simplement ce avec quoi nous avons à rompre, comme par une intention volontaire, comme si nous savions ce qu'elle est et que nous pouvons nous opposer à ce qui est. La tradition, c'est quelque chose qui nous hante et dont nous avons à apprendre ce qu'elle est pour nous délivrer vraiment. Parce que la tradition, c'est ce qui insiste malgré nous. Nous sommes traditionnels sans le savoir, y compris lorsque nous croyons rompre avec la tradition. Et puis d'autre part, et donc la tradition, c'est ce que nous avons à élucider pour nous approprier véritablement ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous avons été, mais nous avons à prendre conscience de ce que nous avons été, à nous rendre maîtres de ce que nous sommes au travers de ce que nous avons été. Et dans la mesure où nous sommes voués à devenir autres de ce que nous avons été, c'est ça tout le sens de l'existence historique, que à la fois nous subissons et que nous construisons délibérément dans une dialectique du complexe de l'éclaircissement de la contrainte et de la délibération en vue d'un futur libre, la tradition, c'est ce sur quoi nous sommes obligés de faire fond pour nous projeter dans l'avenir. Non pas comme quelque chose qui serait une ressource disponible que nous pourrions mobiliser à volonté. C'est là que nous retrouvons les réflexions des auteurs qu'évoquait Philippe Simet, mais comme quelque chose que nous avons à faire. Elle n'est jamais donnée, la tradition. Elle est en quelque sorte l'espèce de point auquel nous sommes contraints à un moment du temps historique pour nous baser sur ce support du passé qui va nous permettre de faire autre chose que le passé et de le faire en conscience et librement. Je crois que de ce côté, nous avons à réélaborer ce que nous pensions savoir de cette notion qui n'a fonctionné au fond à de très rares exceptions près, parce que l'écho dans le milieu philosophique des réflexions qu'on a évoquées, il a été modeste, somme toute. Nous sommes dans le devoir de réélaborer et de donner un vrai statut à cette notion de tradition dans un sens positif, et non plus comme ce repoussoir facile auquel nous pouvions nous opposer à peu de frais.
Alors, d'une certaine manière, on est au-delà de cette opposition tradition-modernité. Ce rapport au temps, vous le signalez, parce que c'était aussi le sujet qui a été traité philosophiquement aussi, la question de la tradition du nouveau aussi, de la rupture. Et vous évoquez tout d'un coup un changement, un basculement, donc légitimation par l'avenir. Est-ce que c'est pas aussi quand même un trait du modernisme que cette légitimation sorte téléologique? Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans la réinvention donc de la tradition au présent, mais dans un présent qui quelquefois peut être aveugle à ses propres déterminations ou ses conditionnements? Oui, parce que
Cocher. Vous me permettez juste une précision, parce que je pourrais avoir créé un malentendu. Quand je pensais à une légitimation par l'avenir, je pense qu'il faudrait mieux parler d'un rapport du présent à l'avenir. Ça n'est rien de nécessairement téléologique, parce que nous pouvons dire à beaucoup d'égards que nous sommes aujourd'hui dans une crise de l'avenir, tout simplement de la difficulté de lui assigner un visage maîtrisable. Mais cela ne veut pas dire que nous n'agissons pas quotidiennement en direction de l'avenir, que nous ne connaissons pas. Et tout ce qui légitime notre action au quotidien, c'est d'être tourné vers l'avenir. Nous ne savons pas ce qu'est l'avenir, il n'y a aucune téléologie là-dedans, nous ne pensons pas qu'il y a un mouvement qui nous conduit automatiquement vers lui, mais il est l'axe par rapport auquel nous nous situons dans une action au présent. C'est ce qui permet au présent d'exister, cette orientation vers l'avenir. Alors, comme le passé était ce qui, à un moment, pendant très longtemps, a été, d'une manière que nous commençons seulement à bien comprendre, ce qui ordonnait le présent. C'est toujours dans le présent qu'il faut situer ce rapport au passé ou ce rapport à l'avenir.
Daniel Robert Dufour.
Oui, je crois que ce basculement vers l'avenir, ce basculement du passé à l'avenir, était en fait déjà en germe au moment même des Lumières. Je me permets à nouveau de citer une petite phrase de Kant, qui, toujours dans ses réflexions sur l'éducation, pointe bien cette question. Il dit quelque part qu'il faut qu'une génération puisse renverser ce qu'une précédente pourrait avoir déjà construit. Et donc, je pense que, à partir de là, ce renversement, il serait situé historiquement dès le tournant des années 1800. Et donc, nous aurions, par toute une série d'aléas, suivi et puis fait des retours en arrière vers une tradition plus surannée, plus passée. Et nous sommes en ce moment, me semble-t-il, à une période peut-être nouvelle. Alors, on évoque beaucoup en ce moment, de toutes parts, les questions du retour de l'autorité, le fameux retour de l'autorité. Et quand on évoque ces questions, on s'appuie beaucoup sur, évidemment, l'autorité de Hannah Arendt, de ce texte fameux de 1958, donc qu'est-ce que l'autorité ? Et il me semble que Hannah Arendt, dans la compréhension que nous en avons maintenant, ne permet pas de bien comprendre cette nécessité de la bascule vers l'avenir, parce que elle explique donc que auctoritas vient de augere signifiant augmenter, et que l'autorité, comme ceci vient d'être dit, c'est ce qui augmente donc le présent du poids légitimement du passé. Or, je crois que la transmission du passé, ceci a déjà été dit, je le reprends d'une autre façon, la transmission du passé est indispensable, mais bien sûr, elle ne saurait en aucun cas suffire. L'autorité ne peut véritablement venir que de l'ajout au passé d'un supplément construit par les nouvelles générations, et ceci donc a été développé effectivement à partir des années 20. Et je crois qu'il est significatif qu'on retrouve ce verbe augmenter déjà chez Kant, non pas augmenter par le passé, mais augmenter par l'avenir. Encore une citation, si vous me le permettez. Une génération lègue ses expériences et ses connaissances à la suivante, et celle-ci ajoute à son tour quelque chose et les lègue ainsi augmentée à celle qui lui succède. Alors je crois que c'est ce qui fait de cette question de la transmission et de l'éducation, de la transmission en général et de l'éducation en particulier, ce que on a l'habitude depuis Freud d'appeler une tâche impossible. Un des trois métiers impossibles selon Freud, éduquer, gouverner, guérir. Il est remarquable, je crois, de savoir que cette idée se trouvait déjà chez Kant lorsqu'il disait que l'éducation, c'est le plus grand et le plus difficile problème qui puisse être proposé à l'homme. C'est le plus difficile parce que, justement, il suppose ce mouvement de bascule, il suppose ce mouvement d'inversion. Hein, c'est pour ça que ça serait donc un métier extraordinairement difficile.
Vous êtes d'accord avec cette interprétation du texte d'Arendt sur la crise de l'éducation?
Oui, là c'est
critique, quelque sorte, que formule Daniel Robert-Dufour.
Qu'est-ce que l'autorité? C'est intéressant de voir que si on regarde le livre, le recueil d'essais La crise de la culture, toutes les analyses ne sont pas toujours congruentes. C'est-à-dire qu'il y a une opposition entre ce qu'elle dit sur la rupture de la tradition, sa conception de l'autorité et puis sa conception de l'éducation. Ça se recoupe pas toujours. Alors oui, je suis vraiment d'accord avec ce qui a été dit et par Marcel Gauchet et par Dany Robert-Dufour. Il y a une phrase d'Eric Weil que je trouve intéressante. Il dit « Notre tradition est celle qui ne se satisfait pas de la tradition ». C'est-à-dire de quelle manière on peut être à la fois dans la tradition et introduire une dimension critique, une dimension réflexive, voire subversive de ce qui est transmis.
D'accord. Mais en quoi y a-t-il aujourd'hui, ou cette accélération de ce processus? C'est ce qu'a dit tout à l'heure Marcel Gauchet, hein, une accélération temporelle. Vous le percevez comme ça ou vous l'analysez comme ça ou pas?
Oui, une accélération, assurément. Mais à mon avis, elle est liée au fait qu'on ne peut plus penser, il est devenu impossible de penser la tradition simplement comme une portion d'héritage, comme une reproduction du passé. Et donc, cette réélaboration de la tradition au présent est censée ouvrir un futur, rendre possible l'ouverture à un futur.
Daniel Robert-Dufour.
Oui, je crois qu'on aborde ici une question tout à fait décisive. Parce que ceci suppose donc que dans la société des égaux qui se forme à partir des Lumières, à partir de ce tournant 1800, il subsiste quelque chose non pas comme une inégalité, mais comme une dissymétrie à l'intérieur des égaux, pour que cette opération partant du passé pour le subvertir, pour l'abolir et pour le transformer, en quelque sorte, puisse avoir lieu. Je fais bien sûr référence à la question de l'inégalité générationnelle, ou si on ne veut pas appeler ça inégalité, à la dissymétrie générationnelle, ou au dénivelé générationnel, qui doit nécessairement exister pour qu'on en arrive à la possibilité d'un renversement complet de cette dissymétrie. Ce qui donc pourrait se dire autrement, il faut partir de cette dissymétrie de départ pour aller vers un dépassement de cette dissymétrie et pour aller vers l'autonomie, c'est-à-dire pour aller vers l'égalité. Alors la grande question...
Une autonomie dont disait Kant aussi qu'il fallait quand même justement la donner à ceux qui accédaient à l'autonomie. C'est-à-dire que pour apprendre l'autonomie, il faut l'avoir aussi.
Il faut l'avoir, mais il faut la conquérir aussi. Bien sûr, il faut la conquérir justement dans un renversement de ce que la génération précédente a prétendu donc imposer. La question que je me pose maintenant, c'est de savoir si nos sociétés soit postmoderne depuis Lyotard, soit hyper moderne, soit hyper contemporaine, peu importe, c'est pas tellement ceci que je voudrais discuter. Mais la question que je me pose, c'est de savoir si notre société fait encore place, notre société des égaux, fait encore véritablement place à cette dissymétrie générationnelle pour que l'enclenchement de ce processus si difficile puisse avoir lieu.
Bon, en tout cas, c'est sûr que Marcel Gauchet, lui, pense qu'effectivement, il y a un problème dans cette dissymétrie, ou un brouillage de ces dissymétries, non, Marcel Gauchet?
Nous assistons très précisément à la dissipation de ce qui subsistait de vivant dans le fonctionnement quotidien de la société non réfléchi de la dimension de continuité avec le passé, par lequel on se sent en quelque sorte corporellement partie de ce passé, il vous habite. vous êtes en familiarité immédiate avec lui et corrélativement de l'autorité de ce passé, parce que tout de même, des modèles éprouvés, canoniques, représentent une sorte d'évidence sur laquelle on peut s'appuyer, se guider. Alors, je crois qu'en effet, c'est au cœur des difficultés contemporaines de l'éducation, ce rapport qui s'est maintenu envers et contre tout, en dépit de l'effort depuis deux siècles de critique des Lumières. Quelque chose a subsisté envers et contre tout sur lequel nous nous appuyions, y compris pour prendre distance avec... C'était très facile de critiquer la tradition quand on pouvait vaguement dire en quoi elle consistait. Maintenant, en quoi consiste-t-elle? Elle n'a plus aucune attestation tangible. Nous ne trouvons plus nulle part le passé sur lequel nous pourrions nous appuyer, y compris pour nous en distancier. Il n'est question que de moderne et de moderniser. Vous avez sous-entendu que nulle part il ne reste un îlot, en quelque sorte, de passé qui serait encore à surmonter. Et puis de même, alors, le passé est sans autorité aucune. Je crois que c'est une immense nouveauté dans l'éducation, qui a été séculairement le dernier réceptacle où on disait, là, il y a tout de même un vrai passé légitime, qui n'est pas n'importe lequel, qui n'est pas le passé de la tradition toute bête, non, qui est celui du canon, de ce que nous pouvons tenir pour sommital dans les œuvres de l'esprit, depuis qu'il existe une tradition de la raison, et avec laquelle le commerce des jeunes esprits s'impose, parce que, au fond, c'est ce qu'il faut sauver de la tradition dans un monde sans tradition, sans autorité de la tradition. Mais cette autorité-là elle-même s'est évanouie. Et je crois que, de ce fait, tout l'appui qu'une génération pouvait trouver sur cette dimension pour transmettre avec une sorte d'évidence n'existe plus.
Mais est-ce que c'est pas plutôt qu'il y a eu aussi, non pas une contestation ou une dissolution de la tradition, mais plutôt une multiplication des traditions, c'est-à-dire que aussi d'un dialogue entre différents types de traditions qui amène à penser autrement la tradition qu'en termes d'origine linéaire. Est-ce qu'il n'y a pas justement plutôt une sorte de diffraction quoi,
Deux mouvements vont ensemble. Regardez ce que représentaient dans l'enseignement les humanités. C'était bien la notion d'une sorte de rassemblement cohérent de tout ce qui figure l'excellence, hein, et qui constitue une unité par le caractère sommital de chacune de ces expressions. Et c'est la dispersion des traditions est en fait le signe de l'affaiblissement de ce qui restait véritablement de substantiel dans ce rapport à un passé dont nous pourrions tirer une instruction directe. Pour nous, nous sommes dans cette situation tout à fait directe. La tradition, il faut aller la chercher et la construire. Nulle part elle n'est donnée. Et que ce soit pour la dénoncer ou que ce soit pour nous fonder dessus. Parce que le nouveau problème de l'éducation, c'est la découverte, en un sens évidente, en un autre sens extraordinairement abyssal, que nous ne pouvons pas faire tout seul, nous ne pouvons pas tout réinventer à n'importe quel moment, donc bel et bien, nous avons à mobiliser un acquis, nous avons à nous orienter dans un temps de l'histoire qui est extraordinairement obscur, et cela suppose un travail délibéré de désignation et d'élaboration d'une tradition, mais elle ne nous est donnée nulle part.
Sur tradition sans traditionnalisme. Alors Marcel Gaucher évoquait à l'instant cette crise, je dirais, de la transmission des humanités, donc d'une certaine tradition, ce qui nous amène quand même aussi à la question de l'école, de l'enseignement. Et en même temps, on peut se demander si l'école ou ce qu'on appelle la crise de l'école récurrente n'est pas symptomatique d'un déréglage plus profond ou d'un brouillage plus profond qui est celui des repères générationnels. C'est d'ailleurs l'enjeu de toute une discussion dans le dernier numéro de la revue du débat. Et j'aimerais qu'on aborde cette question aussi du symbolique à la lumière de la différence générationnelle et d'une crise de reconnaissance de ce qu'on peut appeler aussi la dette symbolique. Mais Philippe Simet, vous vouliez réagir tout de suite aussi à ce qu'avait dit Marcel Gaucher.
Oui, c'est juste une petite remarque. Je crois que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est confronté à la disparition du passé comme champ d'expérience. Et si on reprend la distinction de Koselleck, hein, champ d'expérience et horizon d'attente, hein, il y a aussi l'idée que quand le champ d'expérience disparaît sur lequel on pouvait faire fond, l'horizon d'attente et donc le futur disparaît aussi, on est dans une sorte de présentisme. Ce qui me semble important, c'est que aujourd'hui, on assiste à une réappropriation du passé ou à une réévaluation du passé. Et il me semble que les questions qu'on doit se poser, c'est quelles sont les modalités de cette réévaluation critique du passé, hein, quelles sont les modalités de cette réappropriation critique du passé.
Mais est-ce que cette réappropriation passe pas par une critique justement des représentations de ce passé et notamment d'une critique de ce qui a été construit quand même comme patrimoine et qu'il s'agit peut-être aussi de faire jouer, c'est-à-dire de déjouer aussi ce côté monolithique qui passe peut-être parfois par le modèle des humanités, d'une raison universelle, mais en fait qui quand même est pétri aussi d'une reconstruction d'une histoire, de la culture, non ? Je sais pas. Oui, Daniel Royer-Dufour ?
Oui, je crois que nous arrivons à un point décisif de notre discussion parce que, en fait, je crois qu'un accord est en train de se trouver sur le fait que la transmission n'existe que pour subvertir, en quelque sorte, la tradition. Et donc, il faut là, évidemment, un cadre pour que cette subversion si difficile du passé et de la tradition puisse avoir lieu. La condition pour que cette subversion ait lieu, c'est évidemment qu'il existe un cadre très possiblement fragile, sujet aux aléas de l'histoire, qui doit être préservé pour que cette opération, donc, en quelque sorte, ait lieu. On a vu, je pense, tout à l'heure, et je crois que nous sommes globalement d'accord là-dessus, que dans ce cadre, il y a la question de la différence générationnelle. Or, si ce cadre est endommagé, cette opération si difficile ne peut pas avoir lieu. Donc la question serait de savoir maintenant si dans donc notre entre guillemets postmodernité, ce cadre est oui ou non endommagé, ce cadre symbolique de la différence générationnelle est endommagé. Et je crois que il faut répondre c'est bien possible. C'est bien possible parce que on pourrait dire que la fin donc de ce qu'on appelle depuis Lyotard la fin des grands récits nous libérerait en quelque sorte de l'obligation de transmettre ces récits d'une génération à l'autre pour qu'ils soient invalidés, discutés, défaits, recommencés autrement, etc. Dans ce cadre, ce nouveau cadre, en fait, nous serions d'emblée les égaux de nos pères et on se dit que nos petites histoires, au fond, valent bien leur grand récit. Alors, si effectivement on se dit ceci, si on croit ceci, parce que c'est une affaire de croyance, je crois, alors je crois que le cadre se permet donc d'inscrire cette différence autorise cette inversion donc d'une tradition en quelque chose de nouveau, ce cadre-là ne peut plus fonctionner. Alors je crois que, bon, ça on le sait depuis longtemps, on sait depuis Tocqueville que depuis le 19e siècle, les individus dans les sociétés démocratiques ont tendance à se croire égaux en toutes circonstances. Mais je crois que là on arrive à un point qui est peut-être un combat de trop de la modernité, parce que si on arrive vraiment à ce que ce cadre soit touché, je crois qu'on peut attenter donc à cette oui. transmission, subversion.
Alors, Marcel Gauchet, justement, c'est l'objet aussi de vos articles dans, cette, dans la revue du débat, où vous évoquez donc le déclin des liens de parenté et un certain relâchement donc de l'organisation en âge, comme qui était quand même l'armature, selon vous, explicite de la société, c'est-à-dire les âges de l'enfance, de l'adolescence, de la jeunesse. Est-ce que vous pourriez expliquer à la fois comment vous définissez ce phénomène, comment vous l'interprétez, en quoi effectivement il est symptomatique de cette crise de la transmission?
Il y a là deux phénomènes différents qu'il est important de distinguer. D'une part, une profonde redéfinition des âges de la vie, dont l'élément moteur est tout simplement le prodigieux allongement de la durée de la vie. Comment l'allongement de la durée de la vie eût-il pu rester sans incidence sur la manière de concevoir, la manière dont on y entre, la manière dont on s'y prépare, la manière dont on en sort? Donc je crois que là, il y a une profonde recomposition qui, évidemment, en particulier, change complètement le rapport à l'éducation. On ne s'éduque pas de la même façon pour entrer à 12 ans dans une vie dont on suppose qu'elle a à tout casser 25 à 30 ans devant elle, et quand on estime que l'âge normal pour entrer dans la vie active c'est 25 ans, et qu'on a, sauf devant soi, 60, 70 ans selon les sexes. Évidemment que tout est complètement changé dans la manière de se représenter ce que veut dire entrer dans la vie et construire l'éducation qui est propice pour ce faire. Alors, je crois que ça, c'est un des éléments très importants qui donne en particulier, alors, à l'âge adulte, un statut aussi complètement différent et le marque d'une indétermination bien plus grande que ce qu'était la vie brève dans un monde où les fonctions avaient une sorte d'évidence.
Donc ce n'est pas simplement un déplacement proportionnel en quelque sorte des âges, mais quand même une modification des limites.
Et bien sûr, et parce que d'une certaine façon, dans cette perspective-là, on n'en finit jamais d'entrer dans la vie. Donc en ce sens-là, nous sommes tous jeunes, nous sommes tous en train toujours d'apprendre, et on n'en finit pas. J'avais vu quelque part un slogan qui m'avait extrêmement frappé à propos d'un livre qui était « Apprendre à vivre sa mort ». Qui m'avait paru tout à fait résumé d'une manière exemplaire.
Oui, ça pourrait être stoïcien.
Oui, mais ça ne voulait bien entendu pas du tout dire ce que un stoïcien aurait mis derrière cette expression. Il y avait d'ailleurs quelque chose comme pleinement vivre pleinement sa mort, que j'oublie, qui est moins stoïcien. C'est par là qu'il y a un brouillage des âges de la vie, c'est qu'on comprend comment dans un tel cadre la jeunesse puisse donner à ce point le ton dans la vie sociale, puisque dans la vie longue, c'est le moment d'entrée qui est le moment déterminant. Et ce moment d'entrée n'en finit jamais, d'une certaine manière, sorti de l'épisode terminal par lequel il faut bien consentir à sortir de cette vie, mais qu'on retarde le plus qu'il est possible, et qui représente quelque chose qui n'est pas exemplaire. C'est là où la sagesse des vieillards, il faut bien le dire, dans un tel cas, ne nous sera plus d'aucun secours pour instruire les nouveaux venus. Il ne faut pas compter dessus.
Il y a aussi un autre élément, Marcel Gauchet, que vous faites intervenir, je crois qu'il est important pour notre sujet, la question de la reproduction. La fin de l'impératif de reproduction comme impératif social. Ça, je crois que c'est un élément très important aussi, du point de vue générationnel et de la pensée justement de la continuité de l'espèce, et qui est aussi le sujet de vos articles sur l'enfant du désir. Alors, est-ce que vous pourriez expliquer en quoi cette question de l'enfantement ici aussi est l'objet d'une mutation dans cette présentation?
Je dirais que c'est les deux choses qui changent de concert et qui ne sont pas faciles à équilibrer dans leur poids respectif. C'est l'entrée dans la vie, comme on a dit, et la venue au monde. Et la venue au monde, ça va de pair avec la parenté, ce que représente enfanter pour des adultes, c'est-à-dire reproduire la vie qu'ils ont reçue. Ce qui se présentait, on le sait jusqu'à nous, comme une dette symbolique par excellence structurante du psychisme. La psychanalyse nous a tout de même beaucoup appris sur cette dimension de l'existence, et je crois que là, quelque chose est atteint à la racine de ce que de nos manières d'être reçues. Au fond, ce qui me paraît être derrière les modifications contemporaines de la famille, de la parenté, c'est le principe qui en faisait l'organisation profonde. Les sociétés humaines, depuis qu'on les connaît, s'organisaient en fonction de la contrainte intériorisée par les individus et inculquée de la façon souvent la plus violente, symboliquement, de la contrainte à se reproduire. C'est le devoir suprême, ça n'est pas l'existence individuelle, c'est l'existence transmise. C'est la parenté comme engendrement. Et je crois que cette image symbolique, organisatrice, est profondément atteinte dans un monde d'individus et d'égo, comme celui dont parlait Dany Robert Dufour. Quelque chose a complètement changé des repères symboliques de base de l'existence.
Alors précisément, Dany Robert Dufour, vous évoquez aussi, vous, dans un article, vous parlez aussi de la famille télévision qui intervient, d'une désinstitutionnalisation justement de la famille, non pas sa disparition, mais sa banalisation, et donc un problème justement des repérages symboliques qu'elle impliquait. Donc est-ce que vous faites aussi ce constat-là?
Oui,
comme Martin Gaucher.
Sur ce point, je ne suis pas du tout le premier à parler de désinstitutionnalisation de la famille. Nous sommes un certain nombre à faire ce constat.
Ce n'est pas simplement un constat, c'est aussi un regret, non? On sent quand même qu'il y a aussi le regret ou une sorte d'alerte.
Je crois d'abord que c'est un constat pour s'interroger sur ce qui est en train d'arriver. On verra plus tard s'il y a lieu de regretter ou pas, mais pour l'instant, il y a lieu, je crois, de réfléchir sur un tournant historique important et qui nous amène à penser donc que ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le cadre symbolique de la différence générationnelle, subit un certain nombre de modifications et de d'altérations donc importantes. Et du coup, avec lui, l'obligation moderne, pourrait-on dire, de transmission pour la subversion, de transmission pour passer, aller au-delà donc de la tradition, pourrait du coup, cette obligation pourrait se trouver en quelque sorte désuète. Et il me semble qu'il est en train d'apparaître dans cette postmodernité, c'est un paradoxe peut-être que ce que je vais dire, mais une sorte de nouveau mythe. Puisque, bon, on dit que la postmodernité, c'est la fin de tous les récits, mais en fait, je crois qu'il y a un nouveau récit qui est en train d'apparaître et qui prendrait l'exact contre-pied de ce par quoi j'avais commencé à introduire mon propos. C'est-à-dire que nous n'aurions plus affaire à un homme donc inachevé, prématuré, qui devait trouver son, en quelque sorte son plan de conduite, mais ce mythe, donc postmoderne, si toutefois ceci a un sens, ce mythe postmoderne dirait que l'homme, au contraire, n'est aujourd'hui achevé. Hein, et il n'aurait plus donc besoin de maître, hein, pour prendre ce terme hautement philosophique, dans son sens hautement philosophique, qui lui donnerait donc son plan de conduite pour accéder donc à ce qu'il n'est pas encore, mais qu'il devrait devenir, qu'il pourrait devenir.
Donc fin de la figure instituante du père, on peut dire d'une certaine manière.
Écoutez, s'il n'y a plus de différence générationnelle, il n'y a plus de différence entre les pères et les fils.
Oui, d'accord.
Je crois qu'il faut être assez clair et qu'il faut en tirer un certain nombre de conclusions. Donc, dans ce mythe, qui est paradoxalement donc en train d'apparaître, on dirait en quelque sorte que il n'y a plus besoin de maître pour naître à soi-même. Et donc, dans ce récit, on dirait qu'il n'y a plus besoin de personne, qu'on n'a pas besoin d'en passer par l'autre, en quelque sorte, de ce détour par l'autre pour se découvrir. Je crois que ceci se voit assez bien dans une vogue très actuelle, qui fait beaucoup parler d'elle, par exemple la vogue des récits de soi, la vogue de l'auto-formation, la vogue de l'idée que par les technologies de l'information et de la communication qui nous apportent tout à domicile, donc on pourrait simplement se contenter de s'auto-former. Alors, voilà, donc je ne sais pas, pour répondre à votre question, si c'est viable ou pas, si ça va marcher ou non, mais en tout cas, il me semble que l'ancienne différence qui disait qu'il faut en passer par l'autre, maintenant est en quelque sorte subvertie par une nouvelle visée qui dirait qu'on peut s'en sortir tout seul. Voilà.
Philippe Simet.
Oui, juste une remarque. Moi, j'ai l'impression qu'avec cette idée d'une extension de la jeunesse, le rapport intergénérationnel, il a pas disparu. Simplement, le locus actif, il s'est déplacé. Ce qui est déterminant aujourd'hui, c'est ce qui est nouveau. Le problème, c'est que c'est une nouveauté qui a aucun rapport avec l'ancien. C'est-à-dire que c'est même pas une nouveauté qui va remettre en question ce qui a déjà été là. C'est une nouveauté qui est autonome et qui, d'une certaine manière, s'affranchit de toutes ses attaches au passé. Dans les années 70, il y a une anthropologue célèbre, Margaret Mead, qui avait écrit un essai assez polémique qui s'appelait « Le fossé des générations » où elle montrait comment le rapport s'est inversé. Aujourd'hui, ce sont les jeunes qui apprennent à grand-père à se servir d'une télécommande, etc. Et donc, le problème, il est là. C'est-à-dire, quelle est l'incidence sociale de cette valorisation de la nouveauté dans la mesure où c'est une nouveauté qui est de plus en plus déconnectée ou qui fait fi de son antériorité.
Général, parce que l'émission touche à sa fin, vous posez une dernière question. C'est sur le statut, finalement, du philosophe par rapport à ce que vous considérez comme un constat, finalement. Est-ce que finalement le philosophe est en position d'observateur ou bien est-ce qu'il est là pour, un peu comme Cassandre, en quelque sorte, bon, de prendre un ton un petit peu apocalyptique sur cette décadence, en quelque sorte, est-ce qu'il n'y a pas, je pose la question de manière peut-être un petit peu provocatrice, mais est-ce qu'il n'y a pas ici un discours du philosophe qui est un discours finalement d'un clerc qui aurait perdu un peu la mainmise sur la transmission? Vous évoquiez la perte de la figure instituante du père mais du maître, hein. Est-ce que finalement c'est pas une réaction de philosophe qui voit que finalement il n'est plus un acteur principal de la transmission? Marcel Gaucher?
Je me lance. Non, personnellement pas du tout. Je dois dire à titre personnel, j'ai jamais adhéré à la figure du philosophe comme maître d'une sagesse qu'il aurait à dispenser. Je crois en revanche que nous sommes devant l'activation de ce qui est une autre figure de la philosophie dans la modernité et qui, personnellement, je n'ai aucune attitude de déploration et de regret à l'égard du passé. Et je ne crois pas qu'il faille vivre la chose comme une perte. Mais le fait est que nous sommes devant une nouvelle étape du déploiement de la modernité dont nous avons au moins appris une chose, c'est que ce n'est pas quelque chose que nous maîtrisons à volonté. Nous créons quelque chose qui correspond aux valeurs les plus fondamentales dans lesquelles, en tout cas, nous nous reconnaissons tous ici, ça ne fait l'ombre d'un doute, qui emporte des conséquences que nous ne maîtrisons pas. Nous avons à apprendre à vivre dans une phase nouvelle de la modernité. Et je crois que la philosophie est typiquement là comme la discipline intellectuelle sans complaisance aucune vis-à-vis de quelque autorité que ce soit, y compris celle de la science ou des sciences, qui joue un grand rôle dans cette nouvelle modernité, pour nous aider aussi à vivre dans cette modernité.
Daniel Robert Dufour.
Ben écoutez, moi je pense qu'il ne faut rien regretter, donc je ne suis pas là pour déplorer non plus le passé. L'histoire avance, change, modifie. Je crois qu'au contraire, tout ce que nous avons signalé met à nouveau la question de la philosophie au devant de la scène, puisque tout simplement il faut tout repenser. Puisque nous avons affaire à un monde nouveau, et donc je crois que ce n'est pas du tout une déploration du rôle du philosophe, au contraire, je crois que c'est une activation nouvelle de son rôle.
Beau chantier que vous reprenez aussi à votre compte, Philippe Simé.
Oui, bah moi aussi, je déplore pas ni la perte de la tradition qui me semblait fondée, l'idée de tradition sur des présupposés parfois fallacieux, le fait que le passé ait perdu son autorité, l'a commué en nouvel enjeu de pouvoir. Il y a tout un tas de stratégies, de tentatives pour se réapproprier le passé de façon multiple et qui doivent être questionnées aussi bien par les sciences sociales que par la philosophie. C'est donc la responsabilité du philosophe de s'interroger sur les recompositions, les inventions, les réaménagements de la tradition. Pour autant, à la différence des sciences sociales, il ne s'agit pas juste de montrer en philosophie que le passé peut être réinventé, il s'agit aussi de questionner le rapport éthique que nous devons avoir à l'antériorité du passé.
Merci beaucoup. Je renvoie nos auditeurs à vos ouvrages. Dany Robert Dufour, vous aviez fait paraître L'art de réduire les têtes, très beau titre, chez De Noël en 2003, et va paraître donc dans quelques semaines chez le même éditeur, On achève bien les hommes, quel programme. Marcel Gaucher, alors bon, votre biographie est absolument immense, mais je renvoie juste aux dernières choses qui viennent de paraître, Un monde désenchanté, point d'interrogation, c'est une discussion sur vos thèses à propos de la religion aux éditions de l'Atelier, votre dialogue aussi avec Luc Ferry, Le religieux après la religion chez Grasset, bien sûr aussi la revue de Le Débat, de numéro de décembre, L'enfant problème, numéro très intéressant où vous avez écrit Marcel Gaucher et aussi Dany Robert Dufour, Philippe Simet, je renvoie aussi à vos textes, à vos articles, La tradition est-elle une chose, dans le grand dictionnaire de la philosophie chez Larousse, et Le crépuscule de la tradition, c'est un article de critique en 2002, vous retrouverez ça de toute façon sur le site de France Culture. Notre prochaine émission aura lieu le 24 décembre. Le sujet, y a-t-il un dehors à la mondialisation ? C'était Philosophie en situation, présenté par François Noudelman, à la réalisation Pierrette Perronneau et la technique Annick Briand.
France Culture, il y a le goût européen de la confusion de langage et de la traduction mutuelle entre langages.
France Culture, quelle est la vie d'un poète ?
Mais j'ai envie de dire, tout le monde est poète et en fait, quand tu éclates de rire, j'ai envie de dire que tu es poète.
France Culture, donc.
Écoutez, vous êtes sur France Culture, ok ?
Vous écoutez France Culture.
Allez, en route, toi,
ici, Houston.
Sur la Terre, vous pouvez écouter France Culture via l'internet, franceculture.com.
Et de 10h à 12h, vous pouvez écouter Pourquoi tant d'histoires, Histoire des idées, Histoire fiction et Histoire tout court. À 11h30, vous avez rendez-vous avec Les chemins de la connaissance de Jacques Munier, qui nous parle depuis le début de la semaine du monde de Bouddha. Aujourd'hui, Satori à Paris, avec le sinologue Paul Magnin et Philippe Cornu, chargé de cours à l'INALCO. À 11h, le dernier épisode de votre feuilleton Le Grand Escroc d'Herman Melville, suivi du livre du jour. Mais tout de suite, place à la nouvelle fabrique de l'histoire.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3